14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio et plus que jamais nous allons parler d'amour ensemble. L'amour, c'est assez difficile à définir et pourtant c'est tellement nécessaire à la vie. Franchement, est-ce que vous pourriez envisager une vie sans amour, sans être aimé, sans aimer, sans désirer, sans avoir envie d'être avec ce que vous aimez ? Alors peut-être qu'il faudrait redéfinir l'amour. On confond souvent l'amour avec la compassion, par exemple. La compassion, ça consiste plutôt à aimer quelqu'un parce qu'il est en détresse, ou en tout cas à avoir de la compassion pour lui parce qu'il souffre. Alors la dévotion aussi, c'est quelque part admirer quelqu'un. Et puis on pourrait parler aussi de la fraternité, mais c'est certes un rapport très agréable, mais c'est peut-être pas non plus de l'amour. Et alors, évidemment, on pense tout de suite à ce moment-là à l'amitié. Est-ce que c'est de l'amour, l'amitié ? Il y a autre chose à quoi on peut penser. C'est évidemment la passion. C'est certes passionnant, la passion, mais c'est peut-être pas non plus de l'amour. Alors, j'ai choisi comme invité Frédéric Lenoir pour parler d'amour et pour essayer de définir l'amour. D'abord parce que Frédéric Lenoir est philosophe et puis peut-être aussi qu'il a navigué sur différentes sortes d'amour. Et peut-être que lui pourra nous donner une définition de l'amour. En tout cas, moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à en trouver une parce que je pense qu'il y a autant de définitions de l'amour qu'il y a de personnes ou en tout cas de relations avec du sentiment. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'en cette période particulière, j'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir compris que l'amour, ça te sauve de beaucoup de choses. Et je vous invite donc tous à venir nous parler de vos amours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous nous appelez au 0826 300 300. Frédéric Lenoir, d'abord merci d'être avec nous.
Bonjour Brigitte, c'est un plaisir de vous retrouver.
Plaisir partagé. Et alors, vous avez une définition de l'amour, vous ?
Alors justement, je n'en ai pas une, parce que comme vous l'avez très bien rappelé, il y a plusieurs types d'amour. Et en même temps, je ne crois pas qu'il y a autant de définitions que de personnes. Je pense qu'on peut faire une typologie, c'est-à-dire un certain nombre de types d'amour, des archétypes si vous voulez. Et les Grecs le font très très bien. Les philosophes grecs, ils ont la chance d'avoir un vocabulaire extrêmement fin, ce qui fait qu'il y a essentiellement trois mots en grec pour définir l'amour. Donc là où on utilise le mot amour, ils utilisent trois mots, ce qui permet déjà de faire, à mon avis, des distinctions fondamentales qui éclairent beaucoup de choses. Le premier mot, c'est Eros. Eros, c'est l'amour-désir. Et donc, c'est l'amour lié à la libido, c'est l'amour qui va donner la passion.
Et avec de la sexualité, donc.
Avec de la sexualité, avec du désir sexuel, de la passion, etc. Donc c'est « je te désire, je te veux », quand les Espagnols disent « te quiero », ça veut dire « je te veux », c'est très clair. C'est la passion, c'est l'amour qui est charnel, qui est lié à la libido. Et puis, le deuxième type d'amour, c'est philia. Philia, c'est l'amour d'amitié. Et donc, vous posiez la question, est-ce que l'amitié, c'est de l'amour ? Ben, pour les Grecs, oui, c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour qui n'est pas...
Mais sans désir, donc.
Pardon ?
C'est-à-dire sans désir.
Sans désir sexuel. On peut avoir un désir, on peut... Désirez-vous
de se retrouver, oui.
De se retrouver, bien sûr, la présence de l'autre est importante. D'ailleurs, dans tous les types d'amour, la présence est importante. Mais Aristote, par exemple, dans son livre L'éthique à Nicomaque, qui est un livre formidable que tout le monde peut lire, il définit très très bien l'amour d'amitié et il nous dit il y a plusieurs caractéristiques de cet amour d'amitié. D'abord, il y a réciprocité. Alors dans la passion, il n'y a pas forcément réciprocité. On peut désirer intensément quelqu'un qui ne nous désire pas du tout. Mais dans l'amitié, il y a toujours réciprocité. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui se choisissent parce qu'elles ont des affinités et qu'elles ont envie de faire des choses ensemble. Ça peut être jouer aux cartes, ça peut être randonner, ça peut être aller au cinéma, ça peut être...
C'est la fameuse définition parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Oui, c'est exactement ce que nous dit Montaigne beaucoup plus tard avec la Boétie. Et donc, même le mariage est conçu par Aristote comme de l'amour d'amitié, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là. Il y a la dimension d'éros dans le mariage, il y a la dimension de désir, mais il doit y avoir impérativement, pour que le mariage dure, de l'amitié, c'est-à-dire de la complicité réciproque. Et puis la troisième dimension, c'est agapé. Agapé, c'est un mot qui veut dire amour inconditionnel. Et là, on est dans le don total, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour qui est lié à une réciprocité nécessaire, comme dans l'amitié, ce n'est pas lié à la sexualité, c'est l'amour don. C'est-à-dire, j'aime l'autre sans raison.
C'est l'amour du chien pour son maître.
C'est l'amour du chien pour son maître. C'est l'amour de la mère pour ses enfants. C'est-à-dire, c'est un amour inconditionnel.
Enfin, ça devrait, parce que ça, c'est peut-être moins... Ça, c'est peut-être moins...
Bien sûr.
Tandis que l'amour du chien pour son maître, on peut y croire.
et pour les chrétiens, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. puisque quand on va traduire le Nouveau Testament va être écrit en grec, le mot qui va être choisi pour dire Dieu aime les hommes, c'est agapé. C'est-à-dire, c'est un amour totalement inconditionnel, sans réciprocité. Et après, dans cet amour agapé, donc un amour don, un amour inconditionnel, il y a plusieurs catégories. Il peut y avoir de la bienveillance, c'est-à-dire je veux le bien de l'autre. Il peut y avoir de la compassion, c'est-à-dire je porte aussi la souffrance de l'autre et je me mets à la place de l'autre. Vous voyez, il y a plusieurs catégories dans l'amour don. Mais c'est très important pour moi de distinguer ces trois mots, parce que du coup, on voit que dans la relation, il y a un mélange finalement. Il y a presque toujours, en tout cas dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, il faut que c'est ces trois dimensions. S'il n'y a pas dans la relation d'amour de couple, s'il n'y a pas Eros, bah, il manque une dimension essentielle, il y a la sexualité, le désir. S'il n'y a pas d'amitié, il manque la durée, la force, la stabilité. Et s'il n'y a pas de don, il n'y a pas de gratuité, du coup, on attend toujours que l'autre nous apporte quelque chose. Il y a une condition de la relation. C'est pour ça que ces trois dimensions sont très éclairantes, et on voit que dans les relations amoureuses, les trois doivent être...
Justement, je pense qu'en effet, Frédéric Lenoir, vous êtes comme toujours assez clair dans vos propos, tout en donnant des choses qui ne sont pas si simples à comprendre pour tout le monde dès qu'on parle d'amour. C'est vrai que c'est pour ça que je disais un petit peu que chacun a sa propre définition. Mais beaucoup de couples, finalement, ont tendance à insister trop sur, par exemple, Eros ou agapé, et il faudrait que les trois soient très équilibrés et réciproquement, c'est-à-dire que chacun, et on voit bien que dans
tout
les couples, souvent, il y en a un qui est très dans Eros, l'autre dans agapé, ou
Philéa, exactement, enfin, c'est ce qu'on voit. On voit souvent les couples qui ne marchent pas, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus dans la passion, dans agapé, dans Eros, et l'autre souvent évolue vers plus d'agapé, vers plus de dons, ou plus de filia, plus d'amitié tendre. Et effectivement, vous avez raison, il faut qu'il y ait un équilibre non seulement entre les trois, mais il faut que les deux partenaires aient aussi à peu près le même équilibre. Et si le dosage est beaucoup trop différent, après il peut y avoir un dosage léger, mais s'il y a un différentiel énorme et il y en a un qui est que dans la passion et l'autre qui est que dans l'amitié, ça ne fonctionne plus.
Voilà, et c'est ça qui pose quand même souvent beaucoup de problèmes, parce qu'on démarre souvent par Eros, c'est-à-dire la passion, et puis y en a un des deux qui dépassionne, si je puis dire, je ne sais pas si le mot est correct, mais en tout cas plus vite que l'autre, et c'est pas forcément évident d'arriver toujours à être dans le même dans les mêmes vibrations, quoi.
Bah, ça c'est tout le défi de la vie de couple, hein, effectivement, c'est d'évoluer le plus possible ensemble. Et c'est normal, il y a de toute façon il y a des cycles. Si vous avez raison de le rappeler, ça démarre presque toujours, pas toujours, hein, mais presque toujours dans Eros. Il y a une attirance, il y a un désir, on a envie de voir l'autre, la libido est très forte au départ d'une relation, dans 90% des cas, il y a des exceptions, mais dans la grande majorité des cas. Et puis après, ça devient un peu filia, puisqu'on s'aperçoit qu'on aime l'autre, on a des affinités, on a envie de faire des choses ensemble, on veut la présence de l'autre, on veut son bien. Donc filia se développe sur Eros, et agapé vient couronner tout, puisque plus on aime l'autre, plus on veut son bien. Plus on a envie qu'ils soient heureux, qu'ils s'épanouissent. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent dans cet équilibre, et puis il y a des gens pour qui, finalement, agapé disparaît parce qu'on a peur de perdre l'autre. Et ça, c'est une des pires choses qui soit, c'est la jalousie. C'est-à-dire, comme j'ai peur de perdre l'autre, et ben finalement, je préfère qu'il soit malheureux avec moi que heureux sans moi.
Bien sûr. Alors, Frédéric Lenoir, moi j'ai souvent, c'est pas très loin de ce que vous venez de dire, mais moi je compare souvent, je dis souvent qu'il faut de la passion, de l'intimité et de l'engagement. Au fond, on pourrait dire que la passion c'est donc Eros, l'engagement on pourrait dire que c'est Philéa peut-être, et l'intimité est Agapé. Et à ce moment-là, si on n'a pas un peu des trois, en général les couples ne peuvent pas durer. Est-ce que vous...
Non, c'est vrai. Moi, je trouve oui, tout à fait. J'avais pas effectivement pensé à ces trois mots, mais je trouve très juste aussi, même si c'est pas totalement à corréler avec ce que je viens de donner comme typologie. Mais ce que vous dites, c'est très juste, c'est que ces trois dimensions sont essentielles. Et c'est évident que dans une relation, s'il n'y a pas ces trois éléments, ça tiendra pas longtemps. Donc, on peut effectivement trouver d'autres formulations. Mais ce qui est important, c'est à la fois de montrer une typologie, comme on le fait en philosophie, et puis vous faites plus une explication, je dirais, phénoménologique, c'est-à-dire de l'observation de la relation. Et dans l'observation de la relation...
C'est-à-dire que ça parle peut-être encore plus à tout le monde, passion, intimité, engagement, ça, voilà. C'est très concret. Et souvent, on dit même que quand il n'y a que l'engagement et la passion, on est dans une sorte d'amour fou. Quand il n'y a que l'intimité et l'engagement, on est dans du compagnonnage. Quand il y a de l'intimité et de la passion, on est dans un amour romantique. Et il faut les trois pour être dans une relation de couple
qui dure. Ouais, tout à fait. Alors, mais ce qui me semble important aussi de dire, c'est que, évidemment, c'est un idéal, ça. C'est un idéal. On est rarement dans l'idéal. C'est-à-dire qu'on tend toujours vers un idéal. On y est par moment, et dans la durée d'une vie de couple, il peut y avoir effectivement des décalages, des crises, des moments où les choses ne... Et tout le défi de la vie relationnelle, c'est d'arriver à progresser, à réajuster, à voir dans la discussion, dans les échanges. C'est pour ça que moi, je rajouterais une dimension très importante, c'est la communication. Les couples qui échangent bien, qui peuvent se dire les choses, qui arrivent à affronter les problèmes, fonctionnent beaucoup mieux que les couples qui sont dans le non-dit, qui font l'autruche, qui ne veulent pas voir les problèmes. Mmh. Et donc, l'échange, la communication est essentielle pour que, quand le décalage est trop grand, effectivement, entre les deux personnes, leurs attentes, leurs besoins, la manière dont ils vivent les différentes dimensions de l'amour, eh bien, l'échange permet d'essayer de dépasser ces décalages et de se réajuster. Et on a tous connu, moi comme vous, etc., certainement, des moments de couple où les choses fonctionnent plus très bien. Et par l'échange, par le travail sur soi, par des fois le fait de voir un thérapeute seul ou ensemble, on arrive à se réajuster. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un couple, ça vit. En fait, c'est comme tout vivant, il y a des maladies, il y a des moments où il est en pleine santé. C'est un être vivant.
D'où la définition qu'un couple, c'est 1 plus 1 égale 3, hein, bien sûr. Chaque personne plus le couple. Ouais. Et est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Lenoir, que parfois dans un couple, on peut aussi aller chercher un peu ailleurs ce qui manque dans le couple? Par exemple, s'il n'y a pas assez de communication, on va communiquer avec ses amis. S'il n'y a pas assez de sexualité, on prend des maîtresses ou des amants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que finalement, je sais que vous avez aussi une dimension assez spirituelle. Est-ce que s'il n'y a pas ça, c'est qu'il faut que le couple s'arrête? Quel est votre point de vue, vous?
Non, moi, je suis plutôt partisan du compromis. C'est-à-dire, je trouve, encore une fois, je rappelle qu'on vient de dire qu'il y a un idéal à atteindre. Si on a du mal à l'atteindre et qu'on voit qu'on est quand même très attaché à une personne, mais qu'il manque quelque chose, qu'on n'arrive pas à avoir dans l'échange ou dans la sexualité, je trouve qu'à ce moment-là, il vaut mieux un compromis que d'arrêter complètement la relation. Mais évidemment, la grande difficulté, c'est l'immense question, c'est est-ce qu'il faut que ce soit en toute transparence ou pas? C'est-à-dire, à ce moment-là, ce qu'on dit à l'autre, moi, je manque un peu de communication avec toi sur tel et tel point qui sont essentiels. J'ai d'autres amis avec qui je peux le vivre, et j'ai envie de passer du temps avec ces amis. Ou, et c'est plus compliqué, il n'y a plus vraiment de désir entre nous, j'ai envie de rester avec toi. Est-ce que je peux vivre ce désir, cette sexualité ailleurs? Et il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, il y a des gens, c'est impossible. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à rentrer dans « j'ai besoin d'autre chose qui me manque », ça fait exploser la relation, puisque l'autre ne peut pas l'entendre. Et donc là, je dirais que c'est des compromis à faire au cas par cas, et je crois qu'effectivement, il est utile.
Oui, mais au fond, c'est une question de maturité. Si on est deux adultes matures, on va pouvoir échanger.
On peut se dire ça.
Mais sinon, évidemment, c'est compliqué.
Et moi, je connais des couples qui sont restés ensemble. J'ai un exemple très concret en tête, des gens très proches de moi. Ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, ils s'adorent, et ça fait 15 ans qu'ils ont une sexualité libre. C'est-à-dire que chacun va vivre ailleurs sa sexualité, parce qu'ensemble, ils n'avaient quasiment plus de désir. Mais ils ne veulent pas se séparer pour autant. Donc, vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de cas, et je pense que c'est une question, comme vous le dites, de maturité, de pouvoir parler, et de pouvoir parler en toute confiance, en se disant « on s'aime ». Il y a agapé, il y a philia, il y a peut-être plus eros, parce que c'est souvent le problème, hein. On parle, il y a d'autres problèmes, vous l'avez dit, de communication et tout, mais c'est souvent ça le problème au bout de 10, 15, 20 ans. Et à ce moment-là, comment on fait avec ça? Il y a des gens qui vont préférer se séparer, il y a des gens qui vont préférer rester ensemble.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, Frédéric Lenoir, excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. C'est intéressant, ça voudrait dire finalement que le moins important pour qu'un couple dure, c'est peut-être eros, parce que c'est plus facile d'aller chercher eros ailleurs que philia ou agapé.
C'est sans doute vrai, puisque je dirais que le plus important de tout dans une relation durable, c'est philia. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de relation durable sans amitié, c'est-à-dire sans apprécier la présence de l'autre.
Et puis sans avoir envie que l'autre aille mieux et être là
mieux,
pour lui.
Sans bienveillance, etc., sans atome crochu, sinon on s'ennuie avec quelqu'un. Donc je dirais qu'un couple fondé essentiellement sur Eros ne dure pas. ça on le sait tous. Un couple essentiellement fondé sur Agapé, il n'est pas très incarné. Ben finalement, Agapé, c'est l'amour universel, vous pouvez aimer n'importe qui. Donc, ben, je t'aime, mais j'aime aussi le clochard.
Non, c'est l'amour du chien avec sa maîtresse.
Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans un amour choisi, on est sur quelque chose d'universel.
Bon, alors Frédéric Lenoir, très bien, d'accord, ok, vous êtes d'accord
donc,
avec moi.
Donc, l'amitié, c'est la base de tout.
Ça veut dire...
C'est la relation.
Oui, mais donc, ça veut dire qu'on a du boulot. On a du boulot pendant deux heures parce que la majorité des couples se quittent à cause des infidélités. Donc on a vraiment du boulot pour faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent que bah, c'est pas une bonne raison de se quitter. C'est une bonne raison de se quitter, c'est quand il n'y a pas d'amitié et d'entraide. Bon, ben voilà. Au boulot, Frédéric, deux heures hein, pour les convaincre, ça ne va pas être simple.
Bon, on est deux.
Allez,
on
est deux, oui, je sais. Mais enfin, moi, ça fait des années que j'essaye et je n'y suis pas arrivée. Donc je vous rends le... T'habiller. Bon allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec Léa qui va témoigner justement.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Frédéric Lenoir, aujourd'hui philosophe, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, notamment la Consolation de l'Ange aux éditions Albin Michel. Frédéric Lenoir, c'est Léa qu'on accueille maintenant. Bonjour Léa.
Bonjour Brigitte et bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Léa.
Merci de m'accueillir dans votre émission, c'est un plaisir. Je les adore vos émissions.
Oh, c'est gentil Léa. Alors vous avez une histoire assez incroyable à nous raconter. Vous avez eu un coup de foudre pour le mari de votre voisine, c'est bien ça ?
Pas tout à fait, c'était le compagnon depuis 3 ans de ma voisine et on était en vacances. On était au Maroc dans des maisons qui se côtoyaient les unes les autres et moi je venais d'arriver et le monsieur qui nous louait les maisons m'a présenté au voisinage et puis donc je suis tombée sur une jeune femme voilà. Et elle m'a invité à prendre le thé, et puis elle invitait un petit peu tout le monde dans le voisinage, c'était très sympa. Et elle me disait que son compagnon était parti pour 2 semaines ailleurs, enfin voir des amis. Et puis un jour, il revient, enfin le 3 jours après, quoi, il revient, il rentre. Et là, on a eu un coup de foudre. L'un et l'autre.
Réciproque.
Réciproque, vraiment.
Immédiatement, donc, hein, c'est bien. Vous le voyez. Vous êtes totalement subjugué.
Exactement, et apparemment, lui aussi, il me le dit pas vraiment, parce qu'il est fier, mais je l'ai senti. Et puis, voilà, ses amis, enfin, ils sont devenus des amis, et ils invitaient tous les soirs, il y avait beaucoup de monde chez eux, on faisait des apéritifs tous ensemble, c'était très, très agréable. Et donc, son compagnon me raccompagnait le soir, parce qu'il faisait nuit, on était au Maroc, et que, voilà, pour sécurité. Mais on n'est pas sortis ensemble tout de suite. On a flirté un petit peu parce que c'était comment dire, impossible de résister. Mais c'est surtout lui qui n'a pas voulu. Il a dit, quand ce sera sérieux, on aura une relation. Et puis, quand on est retourné en France, donc on n'a habité pas au même endroit. Et donc, il est venu, comme on était retraités tous les deux, il est venu me voir. Et il m'a dit qu'il avait rompu avec sa compagne. Et ça fait 6 ans que ça dure.
Et vous, vous étiez libre, vous ?
Et moi, j'étais libre. Je venais juste de divorcer.
D'accord. D'accord.
Voilà. Et donc, ça fait 6 ans que ça dure. Et je dirais que notre couple comprend les trois. Les trois, Eros, Agapé et Philéa. Comment dire, on est beaucoup sur la communication. Alors nous, on est partis, contrairement à d'autres couples, sur la liberté sexuelle. C'est-à-dire, je l'ai laissé libre de son côté, puisqu'il avait... Il avait quelques maîtresses et moi j'étais libre de mon côté, c'est pareil. Après le divorce, je m'étais un peu défoulée. Et au fur et à mesure que la relation s'est confortée, on a abandonné nos... On n'avait plus besoin des autres. On n'avait plus besoin que de l'un de l'autre.
Et vous vivez ensemble ?
Et on vit ensemble, oui, mais comment dire, il vient chez moi 2 mois et moi je vais chez lui 2 mois, on peut rester 1 mois. Bah, là actuellement, on est séparés, donc on se manque beaucoup, on s'appelle, on s'envoie des mails.
D'accord, mais enfin depuis 6 ans, vous êtes quand même très souvent ensemble et le désir reste visiblement très fort, à tel point même que ça ne vous donne même pas envie d'aller avec d'autres personnes. C'est intéressant ce que le témoignage de Léa, Frédéric Lenoir, parce que bien que ça ait été un coup de foudre dès le départ, et en général on dit que le coup de foudre ça crée une exclusivité sexuelle, alors que là je dirais presque que l'exclusivité sexuelle elle s'est construite au fil du temps. C'est intéressant,
oui, non ? Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure, Brigitte, de maturité. Et moi, ce que j'entends dans cette histoire, c'est la très grande maturité de ces deux personnes. Alors, ils ne se sont pas rencontrés à 20 ans. Ils se sont rencontrés à un âge qui était déjà un peu avancé, ce qui explique probablement cette maturité, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont une vraie profondeur. Parce que je trouvais très intéressant que déjà, l'homme a différé la relation sexuelle, il n'a pas voulu la voir comme un libertinage, il avait envie que ce soit quelque chose de plus profond et donc peut-être de prendre un peu de temps, donc c'est déjà un acte de maturité. Et le deuxième acte de maturité, c'est de s'être laissé la liberté sexuelle dès le départ, ce qui est très très rare, en disant on verra bien où ça nous conduit. Et ensuite ils ont eu envie d'être exclusifs l'un pour l'autre, et ça je dirais c'est un modèle, parce que c'est ça la vraie fidélité, c'est au fond ne pas avoir envie d'aller ailleurs. Alors si on brûle d'envie d'aller ailleurs et qu'on se force, ça tient pas longtemps, c'est quelque chose qui crée aussi beaucoup ensuite
de frustration, donc
je trouve que là ce que j'entends dans ce témoignage, c'est vraiment ils ont laissé les choses mûrir selon le rythme vrai de chacun, et je trouve que c'est l'idéal. On est devant, pour moi, une histoire assez exemplaire d'une relation amoureuse.
Ah oui,
je suis tout à fait d'accord, Léa, bravo.
Et extraordinaire, parce que d'abord, on communique beaucoup. Ensuite, on est toujours aussi attiré l'un par l'autre quand on se croise dans la maison, que ce soit à la cuisine, dans le couloir, dans la chambre. On s'embrasse à chaque fois qu'on se croise. voilà, on se fait beaucoup de câlins, on est très, très câlins. Oui, et puis la sexualité, elle est au top. J'ai abandonné mes amants, moi, au fur et à mesure, parce que je ne ressentais plus du tout ce niveau de d'extase.
Mais sans doute que la sexualité avec cet homme, elle est tout à fait harmonieuse et tout à fait épanouissante. Vous avez, comme vous l'avez dit, de la communication, des échanges. Qu'est-ce que vous allez aller chercher ailleurs, au fond ?
Tout à fait.
Quel besoin vous auriez d'aller chercher ailleurs ? C'est valable quand on est jeune, qu'on a envie de découvrir le monde. Mais là, vous allez quoi ? Vous allez rencontrer des amants avec lesquels ça sera moins bien. Donc on comprend tout à fait que ça n'a plus beaucoup d'intérêt.
Oui, tout à fait.
Enfin, il me semble.
Et en même temps, peut-être que ça peut évoluer, parce que ce que j'entends aussi, c'est que ce sont des personnes qui se font confiance et qui ont en même temps gardé leur liberté. Et peut-être qu'un jour, ils se diront, l'un ou l'autre fait une rencontre forte qu'il veut aussi vivre. Donc j'ai l'impression que chez eux, ils ne vivent pas les choses en fonction des conventions sociales ou de normes extérieures, mais en fonction de l'écoute de leurs besoins et de leurs désirs. C'est ce que j'entends.
Oui, c'est pas arrêté, c'est comme ça aujourd'hui.
Les choses sont pas arrêtées, exactement.
Bien.
C'est comme ça
mais
qu'on.
Mais grâce à la communication, et vous le disiez bien, hein, Frédéric Lenoir, c'est quand même une des clés essentielles pour que les couples puissent évoluer ensemble. Hein. Sinon, en effet, si on commence à ne pas pouvoir se parler, c'est compliqué. Ben, merci Léa pour ce témoignage. On va se quitter un court instant et puis on va retrouver Fleur Chérie, comme tous les lundis, bien sûr. À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Frédéric Lenoir, c'est Flore Chérie que nous accueillons comme tous les lundis. Bonjour Flore.
Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric.
Bonjour Flore.
Alors, vous nous conseillez de ne pas traîner en slip sale toute la journée.
Exactement. Alors oui, certains se battent hein, pour des causes nobles en ce moment, je sais bien, mais chacun son combat. Le mien, c'est celui de vous parler de la crise sanitaire de vos culottes et de vous dire que non, hein, le slip sale, 5 jours de suite que l'on met à l'endroit, à l'envers, avec un peu de déo au fond et 2-3 feuilles de PQ pour absorber les dégâts, c'est non. Hein, voilà. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que l'IFOP vient de sortir une étude menée début avril qui confirme un des stéréotypes très français. Hein, nous sommes des gros dégueulasses. Hein, voilà. Si les 3/4 des Français pratiquaient la douche quotidienne avant le confinement, ça a chuté à peine 2/3 des Français après le confinement. Et évidemment, pas de surprise, hein, Brigitte, vous allez me dire, c'est chez les hommes que la chute de l'hygiène intime est la plus vertigineuse. Alors, ce qui est amusant, c'est que s'il faut élire un champion du crado, il faut chercher du côté des hommes seuls. Ceux qui ont une famille font tout de même un peu plus d'efforts. Et chez les hommes de plus de 65 ans, hein, dont la moitié se lave tous les jours, les moins de 25 ans, quant à eux, font un petit peu plus attention. Alors, dans cette étude, on apprend surtout que seulement 68% des hommes changent quotidiennement de slip, hein, contre 91% des femmes. Alors non, on ne fait pas ça à un slip sale, c'est un nid à bactéries, c'est le meilleur moyen d'avoir des affections ou des irritations, surtout si les slips sont en synthétique. Et c'est non pour une deuxième raison, c'est ce que révèle aussi l'étude, c'est la dépréciation de soi-même. Est-ce que vous pouvez honnêtement vous dire que vous êtes une grosse bombasse ou un homme sexuellement désirable avec les roubignoles qui mijotent dans leur sauce depuis 5 jours? Bah non, hein. D'ailleurs, l'étude est assez critique là-dessus. 12%.
C'est drôle, rien qu'à vous écouter, j'ai déjà le nez qui a envie d'être.
Oui, on a les odeurs, hein. On a, voilà, on a les 5 sens qui commencent à s'éveiller.
Hein, vous êtes d'accord, Frédéric Lenoir, c'est très imagé, hein, ce que nous raconte Flore.
Oui.
Alors, en ce moment, 12% seulement des femmes, par exemple, et c'est ce que disait l'étude, se trouvent belles en confinement, alors qu'elles étaient 22% avant le confinement, presque 2 fois plus.
C'est déjà pas beaucoup, 22.
Ouais, c'est déjà pas beaucoup, je suis d'accord avec vous. Et l'estime de soi, on a pris un sacré coup. Alors, il y a évidemment le manque d'hygiène personnelle, mais également, et peut-être d'autres facteurs, comme par exemple le manque de compliments au quotidien, de la part des collègues, des amis, de la famille, puis le manque d'occasion de ressortir des tenues chic et glamour, et le manque d'accès aux soins esthétiques, comme le coiffeur et l'esthéticienne. Les hommes, eux, sont moins impactés, hein. 22% continuent à se trouver plutôt beaux mecs, alors qu'ils ont les flotteuses qui naviguent dans leur jus, et qu'ils ont en slip devant la télé. Et je trouve que c'est d'ailleurs un rapport assez sain, hein, finalement, à soi-même, de considérer que sa propre beauté personnelle, ce n'est pas dans le miroir, c'est pas dans la bouche du voisin, ou sur le chiffre de la balance, ou dans la dernière robe à la mode, mais c'est dans la tête. Et que si on est beau en février 2020, et ben on est aussi beau en avril 2020. Voilà, on n'est pas un slip sale prêt. La nouvelle tendance...
Oui. Pardon, allez-y, Flore, je vous en prie.
Donc, la dernière nouvelle tendance que révèle cette étude, c'est la mode du no bra, ou fripussy, ou no slip, l'abandon total de nos amis, les sous-vêtements. C'est surtout vrai pour les jeunes femmes confinées, hein, qui vivent seules. Elles abandonnent totalement le soutif. Et pourquoi pas, après tout, hein, y a aucun risque réellement sanitaire là-dessus. Du côté des mecs, la tendance du no slip est un peu plus limitée, mais bien présente quand même. Ce que l'étude ne dit pas, c'est combien sommes-nous à rester en pyjama toute la journée. Voilà, il manque la partie que j'aurais intitulée « Le grand retour de la nuisette comme robe de soirée » pour être exhaustif dans les chiffres.
Oui, mais c'est même assez... Il paraît que c'est assez terrible, hein, le nombre de personnes qui finalement ne prennent même plus la peine de s'habiller, passent la journée en robe de chambre. C'est... Mmh. Ça montre quand même, Frédéric Lenoir, que finalement, on s'habille un peu pour les autres.
Oui, c'est vrai. Mais alors moi, je la ferme là, parce que moi, j'adore être tout nu. Ce qui fait que comme j'ai la chance d'avoir une maison en pleine nature, j'ai pas de voisins, si je peux être tout nu toute la journée, c'est mon rêve. Donc,
vous avez pris une douche quand même, c'est tout.
Oui, je prends une douche. Je prends une douche, mais disons que voilà, je fais pas l'effort de m'habiller si j'ai pas besoin de le faire. C'est évidemment l'été, parce que l'hiver, c'est impossible.
Oui, mais ça c'est autre chose entre ne... moi aussi j'avoue que j'éprouve pas le besoin forcément de m'habiller si je suis toute seule chez moi, mais bon, c'est la question de l'hygiène quoi que soulève surtout Flore, je trouve.
Et oui, mais être tout nu c'est pas forcément très bon d'un point de vue hygiénique, parce que peut-être qu'on attrape plus facilement, je sais pas, hein, qu'on s'assied comme ça sur ses sièges. Je pense que le slip, le caleçon, ils ont quand même une vertu de nous protéger un petit peu ces parties sensibles. Donc je ne sais pas si c'est plus hygiénique ou en tout cas, mais moi, je sais que psychologiquement, comme j'aime me baigner tout nu dans la mer, etc., je trouve qu'il y a un rapport sensuel au monde, à la nature, à ne pas porter de vêtements si je peux l'éviter. Mais bon, c'est très particulier. Après, c'est un ressenti personnel. Mais les questions hygiéniques, je ne sais pas ce que ça vaut.
Oui, après, je pense que heures, c'est agréable quand même de pouvoir se débarrasser des sous-vêtements qui ont aussi leurs défauts d'un point de vue hygiénique. Quand vous macérez dans votre petite culotte toute la journée, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir des infections urinaires. Donc, c'est parfois aussi bien de pouvoir faire pause quelques moments dans la journée. Et la période de confinement le permet aussi.
Oui, puis on se sent libre. Je disais nager dans la mer, ben c'est pas du tout la même expérience de nager même dans une piscine dans la mer nue ou avec un maillot de bain. Mais vraiment, c'est un ressenti complètement différent. On a l'impression d'une vraie liberté, de plus être obligé de porter quelque chose qui est très lié quand même beaucoup au regard des autres. Et donc, je trouve que c'est vivre cette expérience. Et voilà, ça peut être très intéressant. S'il y a des auditeurs qui l'ont jamais fait, qui ont l'occasion de le faire, faites-le parce que vous verrez que vous aurez pas le même ressenti du tout.
C'est toute la question, évidemment, du naturisme, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, Flore, on l'entend, hein, de plus en plus de gens se plaignent de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, par exemple. Ça fait partie des manques actuellement. Et on
Moi,
voit bien, vous l'avez dit.
Ouais. Ce que je trouve très dommage, quand même, c'est que les gens ne peuvent plus aller chez le coiffeur, certes, mais c'est que les femmes investissent énormément dans ce que j'ai appelé les artifices, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'incapacité de se trouver belle naturellement, sans se dire « Ok, j'investis 2 heures de mon temps ou j'ai investi une somme d'argent chez le coiffeur, donc j'ai le droit d'être belle ou de me sentir belle. » Il y a cette forme de besoin de se rajouter un artifice pour être bien. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que si on était belle avant le confinement, il n'y a pas de raison qu'on soit devenu moche après le confinement, c'est pas vrai. Et on n'a pas pris toutes 20 kilos en un mois, enfin, il faut arrêter.
Non, donc, mais vous avez raison, Flore chérie, mais on sait très bien que beaucoup de femmes ne se trouvent pas séduisante, ne se trouve pas belle, c'est pas tout à fait la même chose chez les hommes. Donc cette sensation d'être enfermé, de ne pas avoir de regard, ça doit certainement en effet jouer énormément sur leur narcissisme.
Oui, il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on est belle, on n'est jamais belle pour soi, on doit être belle pour les autres. Et s'il n'y a plus les autres qui sont là à nous regarder constamment, on s'est plus dans le doute, on est peut-être
moche. Et quel dommage.
Et quel dommage, mais bien sûr.
D'avoir toujours besoin du regard des autres. Et ça, j'arrive pas à savoir si c'est inscrit dans la biologie féminine ou si c'est le conditionnement social qui a fait que les femmes ont toujours besoin d'avoir une approbation de leur beauté par leur regard extérieur. C'est vraiment une question qui est pas simple à trancher.
Alors, il y a une réponse.
Non, mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours comme ça.
Ouais, il y a une réponse que j'aime bien donner à cette question, c'est si vous investissez dans autre chose, par exemple, si vous êtes une pianiste extrêmement reconnue, moi je parle beaucoup de piano, c'est difficile de se sentir moche et en même temps d'être en train d'apprendre du piano et de faire des choses magnifiques au piano. Vous vous sentez forcément belle, ou voire même vous vous en foutez royalement d'être belle ou moche parce que vous brillez par autre chose que votre apparence. Et dès que vous commencez à investir dans autre chose, vous vous sentez paradoxalement beaucoup plus belle. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très culturel.
Très culturel, et là ça expliquerait aussi pourquoi les hommes qui s'investissent beaucoup dans la reconnaissance sociale à travers leur métier ont peut-être effectivement plus confiance en eux, parce que s'ils ont cette satisfaction de la reconnaissance sociale, ça les comble au niveau narcissique.
Voilà. Et que
je sais pas, parce qu'en même temps on le voit bien, alors encore une fois c'est peut-être aussi totalement acquis et pas inné, mais on voit bien comment les femmes sont beaucoup plus dans le désir de l'autre. Une femme va beaucoup plus perdre son désir dans sur
pour écouter
terme,
celui
dans une
de son
relation,
compagnon
que son compagnon. Donc elle a besoin de sentir qu'elle est désirée par son compagnon pour retrouver le désir. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inné maintenant.
Mais c'est souvent le cas, que les deux sont souvent présents. C'est vrai que sur toutes les questions qui sont très importantes, et la question du genre, etc., je crois que vous avez raison. Je pense que très souvent, on oppose l'inné et l'acquis, ou on oppose le biologique et le culturel, alors que les deux sont très probablement présents. Et qu'il y a effectivement une dimension biologique atavique qui, depuis des millénaires, font qu'il y a des différences fondamentales entre l'homme et la femme, et on le sait au niveau du cerveau, etc. Et puis en même temps, il y a un conditionnement social qui est très très fort, et qui conditionne et qui, je dirais, amplifie et rigidifie ces différences.
Tout à fait. Mais on peut en effet aider les femmes aujourd'hui à considérer qu'elles sont naturellement bien et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être sorties de chez le coiffeur et maquillées pour être belles.
Bien sûr.
On est quand même heureusement dans une mode plus naturelle qu'il y a 50 ans et il faudrait qu'elles en prennent conscience. Merci Flore. Je rappelle votre dernier livre, parce que c'est le moment où vous avez le temps d'écrire, L'écriture érotique, et il était sorti aux éditions de La Musardine. On se retrouve dans un petit instant, Frédéric Lenoir. On va retrouver l'amour dans un instant.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Frédéric Lenoir, qui est avec nous, philosophe, et on évoque l'amour. Frédéric Lenoir, vous nous avez donc donné les trois dimensions essentielles de l'amour, Eros, Philéa et Agapé. Et puis, je crois qu'on a aussi compris à quel point il fallait peut-être du temps, de l'expérience pour aimer. Et en fait, Frédéric Lenoir, on dit aussi souvent que notre première relation d'amour, c'est évidemment avec nos parents. Elle a une importance, finalement, la manière dont on aura été aimé, sécurisé.
Elle a plus qu'une importance, elle est déterminante. Et c'est vrai que l'enfant est en toute attente, il est totalement ouvert, c'est un réceptacle qui attend, qui a besoin d'amour, et notamment d'amour inconditionnel. Et la première relation qu'il a, c'est la relation avec la mère, puis le père, puis la famille. Et si ces relations-là sont satisfaisantes, toute sa vie, ensuite, il sera structuré, son ego sera bien placé, il aura confiance en lui, il pourra aimer les autres de manière juste. Alors si ces relations sont très insatisfaisantes ou très déséquilibrées, et notamment s'il a manqué d'agapé, c'est-à-dire d'amour inconditionnel, puisque le tout petit enfant a besoin de vivre l'expérience de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je t'aime tel que tu es, sans condition, parce que c'est toi. Et s'il n'a pas vécu ça, il aura des déséquilibres toute sa vie. Alors après, évidemment, entre ces deux extrêmes, le vivre pleinement, ne pas le vivre du tout, il y a beaucoup de gris, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été insuffisamment aimés, pas aimé, trop aimé, c'est-à-dire avec un amour qui est trop possessif et pas assez inconditionnel,
envahissant,
etc. Donc il y a tous les... Mais je parlais avec Boris Cyrulnik, que nous aimons certainement beaucoup tous les deux, et vous savez qu'il a développé cette théorie de la résilience, c'est-à-dire que des êtres mal aimés, après avoir été cabossés, avoir connu des grandes épreuves, ont réussi justement parce qu'ils ont été blessés par la vie, à rebondir et aller plus loin peut-être que d'autres. Et je lui ai posé la question, mais au fond, que faut-il pour être résilient? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont résilientes, qui s'en sortent et d'autres non? Et il m'a répondu, il faut avoir connu de l'amour inconditionnel enfant. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a fait aucune expérience d'amour inconditionnel aura presque aucune chance d'être résiliente. C'est pour ça que cet amour inconditionnel, on peut le connaître avec ses parents, mais on peut le connaître avec d'autres êtres. Il peut y avoir une grand-mère, par exemple. Et moi, je connais des gens qui ont été très mal aimés, voire abandonnés par leurs parents, mais ils ont eu quelqu'un auprès d'eux. Ça peut être un parent adoptif, ça peut être une grand-mère, ça peut être, je vais vous dire, un animal. Si vous avez enfant,
même
chien,
la nature, c'est vrai, mais même la nature. Moi, j'ai le souvenir d'une femme qui avait témoigné il y a quelque temps et qui avait eu une enfance massacrée et qui, quand j'essayais de comprendre ce qui lui avait permis d'être justement quelle résilience, elle m'avait dit j'allais dans la forêt toute petite et j'aimais les arbres.
Absolument. Alors moi, j'ai fait de manière moins dramatique cette expérience. J'avais des parents très chaotiques dans leur manière d'aimer. Et je souffrais beaucoup effectivement. Et on vivait à la campagne. Et je dis souvent dans mes conférences, dans mes livres, ce qui m'a sauvé la vie, c'est la nature. Et c'est le fait effectivement de me sentir tellement bien dans la nature que j'allais au fond du jardin et mes parents me disaient mais t'as pas peur. Je disais non, les loups me protègent. Et donc j'ai le sentiment que tout ce qui était d'ordre naturel était bon et protecteur, alors que le danger venait des humains et notamment de ma famille.
Et c'est pour ça que maintenant, vous vous promenez nu dans la nature.
Dans la nature, voilà. J'ai gardé ce sentiment de communion totale avec la nature. Je l'ai tout compris, la boucle est bouclée.
Cécile est avec nous maintenant. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Je suis ravie d'être avec vous et je suis super touchée d'entendre votre témoignage. Ça résonne en moi aussi, voilà.
Parce que vous avez aussi... Tes parents pas top, quoi.
Non. Pas top, non. Ouais, c'est ça, ouais. Pas top. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout va bien aujourd'hui.
Et donc, vous avez envie de nous parler d'une grande histoire d'amour, hein, je crois.
Ouais, une grande histoire d'amour qui m'est arrivée, j'avais 17 ans. Je suis partie en camp d'ado en Sicile et je suis tombée éperdument amoureuse de mon animateur, en fait, de l'animateur qui s'occupait du groupe, qui avait 10 ans de plus que moi, une petite dizaine de plus que moi. Et j'étais une ado capricieuse, têtue. J'ai certainement gardé quelques traits de caractère d'ailleurs à cette époque. Et donc j'étais vraiment, j'ai tout mis en place pour pouvoir vivre une relation avec lui. Donc en Sicile, on a débuté là-bas. C'était fort parce que on devait se cacher. Il y avait beaucoup de jeux par rapport à la hiérarchie. En même temps, on était en camp d'ado, donc on était assez libre. On était en randonnée, on traversait la Sicile à pied. Enfin, c'était juste somptueux, le cadre idyllique. Et puis, dans un hôtel, on avait fait une pause, une halte quelques jours à Syracuse. Je l'ai trouvé nez à nez dans une chambre avec une autre de mes camarades du même âge que moi, et ils étaient en train de s'embrasser. Et bah là, ça a été le drame.
il vous plaisait, bon, ça on a compris, mais est-ce qu'il vous regardait, oui. Vous?
Ah oui, il me regardait. On était en relation charnelle et amoureuse et sentimentale.
D'accord. Quand vous le voyez embrasser une autre fille, vous aviez vous déjà flirté avec?
Ah oui, on était déjà bien engagés, ouais, dans la relation, ouais.
D'accord. Oui. Et donc, à 17 ans, on est très jalouse, j'imagine.
Ah mais j'ai littéralement explosé, quoi. Avec un tempérament qui est de feu, quoi, et puis assez possessive aussi à l'époque, je me suis échappée. Voilà, j'ai fait une mini fugue à 17 ans dans Syracuse. J'ai fait en sorte qu'il ne regarde plus que moi, finalement, voilà, inconsciemment, et que tous les yeux se braquent sur moi, puisque une ado qui s'échappe donc dans les années 90 en plein Syracuse, c'était peut-être pas,
oui,
dangereux,
aussi,
mais il y avait quand même des risques.
Je pense pas que ça a été votre motivation. Ça a apporté le fait que justement vous avez pris de l'importance aux yeux de tous, mais je pense que cette fuite, elle est due parce que c'est quelque chose qui est insupportable, et quand on ne peut pas supporter quelque chose, on fuit. Je pense que c'est plutôt ça, votre réaction première, elle n'a pas été calculée.
Ah non, du tout, c'est pour ça que je dis de manière inconsciente. Ah non, c'est maintenant a posteriori. Mais sur le coup, c'était juste insupportable, intolérable, et puis j'étais pas... j'ai voulu fuir, j'ai voulu me cacher, puis j'ai voulu aussi lui faire payer quelque chose, quoi, quelque part, hein, parce que je savais qu'il prenait un risque, enfin, de perdre un ado, un colon, en plein milieu de la Sicile. Il aurait pu avoir des problèmes importants avec sa hiérarchie, quoi, donc... J'ai poussé le bouchon un petit peu loin. Bon, je me suis pas échappée très très loin. On n'était pas loin de la plage. Je me suis collée sur le sable. J'ai été faire quelques balades dans les ruelles. Bon, j'ai dû, je sais plus, peut-être une heure et demie, deux heures à me chercher. Et ce qui est quand même assez long finalement quand on est, j'imagine pour eux dans le stress et l'inquiétude. Voilà, donc après on s'est retrouvés, enfin voilà, ça s'est bien terminé. Je me suis excusée de cette bêtise, mais en même temps voilà, je lui en voulais tellement que lui aussi s'est excusé finalement, quoi. Avec ses 10 ans de plus, il s'est quand même excusé.
Mais quand même, sur un plan, sur un plan d'éthique, vous aviez 17 ans, il avait 10 ans de plus, visiblement vous n'étiez pas la seule gamine oui. avec laquelle il flirtait, c'est un peu limite quand même, hein,
oui.
Cécile.
Oui, 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 on est d'accord, mais quand on a 17 ans, Brigitte, on voit pas du tout les choses de la même manière. Enfin, en tout cas, moi, je peux parler que...
Je suis d'accord.
L'éthique à l'époque, je ne savais même pas ce que ça.
Alors, je crois que vous vous êtes retrouvés hein, un peu plus tard. Alors, vous allez nous raconter ça après les infos, mais on va déjà laisser la place aux infos. Frédéric Lenoir, je vous donne la devinette. Quand une femme crie effrayée, oh my God, qu'elle est grosse. De quoi parle-t-elle? Si vous avez l'idée, vous me donnerez la réponse après les infos.
14h, 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Frédéric Lenoir, philosophe, et dont je conseille le magnifique livre sur Spinoza, qui parle beaucoup de désir, mais qui parle également d'amour, hein, bien sûr, dans ce livre. Mais est-ce qu'on peut parler de désir sans parler d'amour, Frédéric Lenoir? C'est peut-être difficile, non?
Oui, on peut parler de désir sans parler d'amour. Je pense qu'on peut avoir du désir pour d'autres choses que pour des êtres humains. Et donc y a, le désir, c'est aussi le chocolat. C'est beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans la relation humaine, le désir amour, c'est eros, comme on en parlait tout à l'heure, c'est une des grandes dimensions du monde, le désir.
Alors la devinette, quand est-ce qu'une femme crie effrayée, oh my God, qu'elle est grosse?
Bah c'est terrible parce qu'on a envie de répondre spontanément. Découvre le sexe de son partenaire, mais je suis sûr que c'est pas ça. Donc, je le dis quand même.
Non, c'est quand elle voit une araignée, évidemment.
Eh ben voilà, c'était sûr.
C'est bien connu. Alors, Cécile nous raconte ses premières amours. Hein, les premières amours, elle avait 17 ans. C'est souvent des amours qui marquent toute une vie. Parce que je ne sais pas quel âge vous avez, Cécile, et je ne me permettrai pas de le demander, mais vous avez eu envie de nous raconter cet amour-là.
Oui, j'ai eu envie de vous raconter celui-là, Brigitte, parce que il s'est avéré que après cette adolescence, je suis devenue donc jeune femme, et à 24, 25 ans, j'ai commencé à faire un rêve récurrent, toujours le même, plusieurs fois par mois, avec cet homme que j'avais rencontré donc 10 ans auparavant, Cécile.
Et donc vous avez eu une... Vous avez fait l'amour avec lui pendant votre vacances, et ensuite vous êtes rentrée chez vous, c'est ça, et vous rêviez de lui régulièrement?
Non, en fait, on a eu une relation qui a duré à peu près 5 mois. Après cette colo, c'était pas évident parce que ben voilà, 10 ans de plus que moi, comment j'allais parler de ça à ma mère, c'était compliqué.
Plus la distance,
donc il était du sud de Paris, moi j'étais de l'Oise, donc c'était pas super compliqué. Mais c'était quand même une relation cachée parce que moi je me voyais pas présenter c'est ça surtout. Donc voilà, à un moment la relation a cessé, et puis chacun a suivi son petit bout de chemin, et donc 10 ans plus tard, voilà, j'ai commencé à faire un rêve toujours le même avec lui dedans. Et puis, au bout de peut-être une petite année, je me suis dit, il faut que je le retrouve. Je dis, ce rêve, il vient me dire quelque chose, il faut que je le retrouve, il faut que je le cherche. Donc, il y a 20 ans de ça, pour pas vous donner mon âge, mais pour recontextualiser, Internet, c'était pas aussi développé, les téléphones portables n'étaient pas du tout comme ils sont aujourd'hui. Donc, j'avais eu une occasion de faire des recherches pour mon boulot sur Internet, donc j'avais profité pour, parce que bien évidemment je me rappelais de son prénom et de son nom, que j'avais noté manuscritement et puis dans mon cœur, hein, bien évidemment, et à force de rechercher sur les pages jaunes et d'appeler à chaque fois monsieur et madame machin, ben j'ai fini par tomber sur sa sœur. Voilà, un jour au téléphone, et qui m'a donné son numéro de téléphone, et je l'ai recontacté, et il avait déménagé à 900 kilomètres de Paris, et je suis allée le rejoindre. Je l'ai contacté, je lui ai laissé un message, et il était super content de m'entendre, et j'ai été le rejoindre. Voilà.
Et alors,
on était super émus, je me rappelle, on s'était donné rendez-vous dans un café, je me suis dit, mais est-ce qu'il va me reconnaître? Bon. Et oui, bien sûr, on s'est reconnus tout de suite, on avait, donc 26 et 36 ans, on s'est reconnus tout de suite, et ça a été, c'était comme si on s'était pas quitté. c'était très très fort, très très fort, très intense. C'était fluide au niveau de la conversation, c'était du désir qui était là autour de nous. On était un peu replongé en arrière, quoi. Hein. C'était très fort. Et on est reparti dans une relation très rapidement qui a duré à peu près un an. Voilà. Et puis au bout d'un an, j'ai fait le bilan, on va dire, de pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai compris que je venais clore quelque chose dans mon histoire et puis avec lui. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la région où je l'ai retrouvé. Et j'ai rencontré le père de mes enfants, donc j'ai 3 enfants, et je pense que ce rêve, j'ai bien fait de le poursuivre. Voilà, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir suivi mon rêve.
C'est-à-dire, vous êtes très heureuse d'avoir choisi le père de vos enfants, c'est pas cet homme, hein, j'ai
c'est
bien
pas
compris.
C'est pas lui, non,
d'accord.
C'est pas lui.
Vous êtes heureuse d'avoir choisi cet homme pour avec qui vous avez fondé une famille. Et au fond, vous avez cette histoire reste quelque chose de beau, mais vous n'avez pas eu envie de vous engager avec cet homme.
Non, j'ai pas eu envie de m'engager avec cet homme parce qu'il y avait des...
Voilà, alors c'est ça, c'est la question que je vous pose par rapport à ce que disait Frédéric Lenoir, justement, qu'est-ce qui manque ? Parce que le désir, il n'y a pas de doute, hein, Frédéric Héros, oui. Il est là. Et qu'est-ce qui manquait alors ? Pas suffisamment d'entente ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Je pense que, alors, il était prêt à s'engager. Il m'avait dit qu'il souhaitait avoir des enfants avec moi. Et moi, je me sentais pas du tout en phase pour m'engager avec lui. Je sais pas comment vous expliquer. C'était peut-être le souvenir de cet amour d'adolescente qui était plus fort en fait que la réalité, et puis il y avait des comportements, des attitudes au quotidien qui me convenaient pas. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais on se doutait bien,
Frédéric Lenoir qui manquait certainement filéa.
Oui, bien sûr, mais ce que j'entends surtout, c'est qu'elle avait besoin de clore cette histoire pour passer à autre chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Moi, j'ai connu ça, je me souviens très très bien. J'avais été fou amoureux d'une fille quand j'avais 15 ans et je n'ai jamais osé lui dire. Elle était pour moi tellement belle, tellement inaccessible que je me suis dit, elle va me rejeter à tous les coups. Bon, c'est ma problématique aussi. Et du coup, je n'ai jamais osé lui dire. Et 10 ans plus tard, quand j'ai eu un peu plus de 25 ans, j'avais gardé son numéro et je l'ai invité. J'avais besoin de la voir et de lui dire que j'étais hyper ému, j'étais encore amoureux d'elle finalement. Mmh. Et puis elle m'a dit, elle me regardait avec des yeux ronds, c'est-à-dire qu'elle était passée à autre chose depuis longtemps, et donc il s'est rien passé et tout. Mais j'avais besoin de clore cette histoire, et ça me hantait, si vous voulez. Et très souvent, il y a des histoires comme ça, on est nombreux à avoir vécu des choses qui n'ont pas abouti ou qui ne se sont pas dites, et puis 10 ans après, 15 ans, 20 ans après, on a besoin de retrouver la personne et de lui dire quelque chose, et puis après, on peut vraiment passer à autre chose. Ça, c'est assez fréquent, finalement, dans les relations amoureuses, surtout s'il y a de la passion, c'est-à-dire de l'imagination, il y a des choses qui ne sont pas ancrées dans le réel, et c'est ce que disait Cécile. Bon, peut-être qu'elle l'a idéalisé, il avait 10 ans de plus, puis quand on l'a revu 10 ans après, elle a moins idéalisé. Et du coup, elle a pu tourner la page.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Le moins idéalisé, c'est devenu. Il y a une part de l'idéal qui s'est concrétisé et puis qui ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Et en même temps, c'était la possibilité de clore cette histoire et puis de le remercier parce que j'ai vécu des choses fantastiques avec lui et puis on est restés copains et ça c'est super chouette et de temps en temps on se croise encore et voilà, ça c'est une petite part de magie qui a été et qu'on garde, enfin en tout cas moi que je garde en moi et c'est toujours, enfin voilà, c'est ces moments de la vie où...
Votre témoignage est très intéressant, Cécile, parce que ça montre bien qu'une relation avec beaucoup de désir, une relation qui quelque part a marqué, d'autant que c'était quand même votre première fois, ça suffit pas, quoi. Pour qu'une histoire d'amour dure sur le long terme, il faut d'autres éléments. Et c'est là où on voit bien toutes les facettes et toute la panoplie de l'amour. Parce que
tout à fait.
Je pense que quand vous aviez envie de le retrouver, vous étiez persuadé quelque part dans votre tête que c'était l'homme de votre vie.
Ah ben je me l'étais imaginé, oui, tout à fait, je me l'étais imaginé, la romance parfaite et totale.
Mais c'est bien d'avoir fait cette démarche parce qu'au moins vous avez su tourner la page. Oui.
Exactement, j'ai un sentiment d'être allé au bout. Voilà, d'avoir accompli quelque chose et puis surtout d'avoir respecté, de m'être respecté puis de l'avoir respecté lui aussi. Voilà. Et on a pu en discuter et c'était chouette.
Je trouve, Frédéric Lenoir, que Cécile aussi fait preuve d'une certaine maturité.
Ah mais tout à fait. Elle a su confronter son rêve à la réalité, ce qui est déjà une grande preuve de maturité, et en tirer les conséquences. C'est-à-dire de pas rester dans son rêve, de pas rester dans son imagination. Et ça me fait penser, vous parliez du miracle de Spinoza, là, mon livre sur Spinoza. Spinoza est un auteur qui parle à merveille de l'amour, et notamment du rôle de l'imagination, de l'imaginaire. Il nous dit que nous commençons par imaginer l'autre avant de le rencontrer. Vous savez, cette définition de l'amour, je vous la donne, hein, elle est très philosophique, mais très courte. Il dit l'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Ça veut dire que l'amour, c'est une joie. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on est en amour, on est en joie. Mais cette joie, elle n'est pas liée à la cause extérieure, c'est-à-dire à la personne. Elle est liée à l'idée qu'on en a. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer quelqu'un, on imagine la personne. Et les psychanalystes d'aujourd'hui nous diraient on projette sur l'autre un tas de choses avant de le rencontrer. Et donc Spinoza a parfaitement mis en lumière que ce qui se joue dans la rencontre amoureuse, c'est d'abord de l'imagination. Et parce que effectivement, on attend le prince charmant, on attend une personne qui peut répondre à tous nos besoins, à tous nos manques, qui ressemble à notre père, qui ressemble à notre mère. Vous savez, j'ai un ami psychanalyste qui me dit toujours avec humour, quand deux amoureux font l'amour pour la première fois, eh bien, il y a 8 personnes dans le même lit. Il y a les amoureux, il y a leurs parents respectifs et leurs anciens conjoints. C'est-à-dire, dans l'inconscient de chacun, il y a plein de choses. Et donc, il faut purifier l'imagination. Ce qui fait que pour Spinoza, il y a une différence entre les joies actives, les joies vraies, les joies qui durent, et les joies passives. Et les joies passives, ce sont les joies qui sont liées à des idées erronées. Et donc, lorsqu'on a une idée fausse de quelqu'un, il nous dit cette joie, elle est passive, elle ne va pas durer lorsque la réalité va l'emporter sur l'imagination. Et lorsqu'on va découvrir l'autre et qu'il ne nous convient pas, qu'il n'est pas ce qu'on imaginait, que c'est pas le prince charmant, etc., il nous dit notre joie va se transformer en tristesse et l'amour peut se transformer en haine. Et il a tellement raison. Le nombre de couples qui se sont déchirés après s'être adorés, parce qu'en fait, ils étaient dans l'imagination et n'ont pas été dans la rencontre de l'autre, ou en tout cas, pas au début. Ce qui fait que dans toutes les relations, il faut purifier l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a toujours une période de projection, d'attente, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, la réalité l'emporte. Et à ce moment-là, c'est là qu'on vérifie la solidité d'un couple. Est-ce qu'il peut dépasser cette période où il n'est plus dans la projection, où il n'est plus dans l'imagination? Et est-ce que c'est l'autre qu'on aime tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, etc., et non pas tel qu'on aurait aimé qu'il soit. Et ça, c'est des preuves de vérité des couples. Ça dure généralement dans la vie d'un couple. C'est entre 6 mois et 2 ans qu'on est confronté à cette réalité.
C'est ça, oui. C'est la fameuse phrase « L'amour rend aveugle, mais le mariage lui redonne la
vie ».
C'est pas très romantique.
Et quand notre ami Frédéric Becbédé dit l'amour dure 6 mois, ou 3 ans, l'amour ne dure pas 3 ans ou 6 mois. L'amour peut durer toute la vie. Ce qui dure 3 ans ou 6 mois, c'est la passion amoureuse. C'est-à-dire l'illusion de l'amour.
Bon, écoutez, Cécile, votre témoignage était tout à fait passionnant. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter.
Merci à vous, merci. Et puis, merci à Frédéric, dont je suis en train de lire le livre depuis le début du confinement. Je me suis plongée dedans. Voilà.
Lequel?
Le miracle Spinoza?
Le miracle Spinoza, tout à fait.
Alors, il faut passer le début qui est un petit peu pénible parce que c'est la vie de Spinoza. Il fallait bien en passer par là. Mais après, c'est exaltant, hein, Cécile.
Je n'en doute pas. Je lis plusieurs livres en même temps. Je ne vais pas trop m'étendre, mais je lis plusieurs livres en même temps. Donc ce soir, je replonge avec Spinoza. Je retourne à mes premières amours.
Vous verrez, c'est vraiment tout à fait passionnant. Merci Cécile, en tout cas. Merci de nous
merci
avoir.
Brigitte. Merci Frédéric. Et puis, bonne continuation.
Vous vous retrouvez ce soir, de toute façon.
Donc, c'est ça.
Allez, on se quitte un court instant et on va accueillir Carole Cédillo qui va nous parler du cœur qui serait donc, et qui est le symbole de l'amour, mais ça on le sait tous, mais elle nous expliquera pourquoi dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Alors Frédéric Lenoir est avec nous, philosophe, et je crois que vous connaissez Carole Cédillo, pédagogue jungienne. Bonjour Carole.
Bonjour Brigitte, bonjour Frédéric.
Bonjour Carole, mais oui, j'ai le bonheur de lire aussi Carole Cédillo, qui m'a fait l'honneur de me demander de rédiger la préface d'un livre qu'elle a consacré à Jung, qui est un psychologue que j'aime aussi énormément, donc c'est un grand plaisir d'entendre Carole.
Bon, merci Frédéric, et le plaisir est partagé bien sûr. Alors, bien sûr, on va parler de l'amour, on va continuer à parler de l'amour, et pourquoi l'amour est symbolisé par un cœur, en règle générale, dès qu'on a envie de dire un « je t'aime », quel qu'il soit, on va faire un petit cœur. Qui d'entre nous n'a jamais gravé un cœur sur un arbre, sur une pierre, terminé une petite lettre avec un petit cœur, un email maintenant avec un petit dessin, un smiley, juste pour témoigner d'un sentiment amoureux ou amical, on va dire « je t'aime » tout simplement, et je crois que les trois niveaux qui ont été évoqués tout à l'heure font partie aussi de ce petit cœur, alors qu'on va investir d'une couleur plus ou moins puissante, forte, en relation avec nous-mêmes, justement, qui sera un amour-passion, qui sera un amour amical, un amour...
Oui, du rouge au rose, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, par exemple. Alors, consciemment, bien sûr, ou non, mais en tout cas, la couleur qui va investir ce cœur va être porteuse, bien sûr, du fond du message. Mais finalement, elle vient d'où, cette forme, cette représentation dessinée qui nous semble vraiment évidente aujourd'hui? Est-ce que c'est bien la réalité? Est-ce que notre cœur, dans notre corps, a cette forme-là? Finalement, il suffit d'y regarder. Eh bien non, ça n'a pas été si simple, car jusqu'à peu près au XIIIe siècle, on n'en sait rien parce que l'Église interdit les autopsies. Donc on ne peut pas savoir effectivement la forme de cet organe. Maintenant, nous savons depuis longtemps que c'est un muscle, un muscle précieux, mais qui n'est peut-être pas aussi glamour que ça dans son apparence. Ventricule, artère, valve, oreillette, c'est pas très sexy quand même tout ça. Et c'est pas sûr que cela va susciter le désir sexuel et notre imaginaire érotique. Très sincèrement, si on le voit, je dirais dans un manuel d'anatomie, je suis pas très sûre que ça va vraiment être excitant. C'est là où le symbole, justement, va intervenir, puisque nous savons que le symbole, il va œuvrer subtilement. Et puis parce que ce symbole aussi, il est engrammé quelque part, c'est-à-dire il est intégré quelque part en nous. Alors on va revenir dans l'Antiquité, dont on a un petit peu aussi parlé tout à l'heure. Et dans l'Antiquité, bien évidemment, on va retrouver une forme symbolique. Mais cette forme symbolique, c'est pas le cœur, véritablement. On va retrouver cette image que maintenant nous représentons de cette manière. Elle est sous une forme qui est une forme utilisée beaucoup dans l'Antiquité. C'est la forme de la feuille du lierre, symbole d'attachement. Et cette forme de feuille de lierre va aussi se mettre en relation avec une autre feuille, celle de la vigne, qui va nous ramener aussi à un dieu particulier qui s'appelle Dionysos et qui va parler du plaisir, du désir, de la sensualité, de la fête. Donc effectivement, on va associer cette plante justement à quelque chose qui à l'époque en tout cas, on pensait que cet organe, et déjà à cette époque et après dans la continuité, cet organe, le cœur, on va dire que c'est le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments, alors que maintenant nous savons que non. Mais le lien, puisque le symbole est quelque chose qui nous permet de faire du lien entre une chose et une autre, eh bien quand on va parler du cœur, on va parler aussi du sentiment, on va parler de l'amour, on va parler de quelque chose qui va prendre possession de nous-mêmes et qui, bien sûr, un petit peu plus tard, sera reprise et investie par Cupidon. Et avec ses flèches, une fois qu'il aura pris possession, on va dire, de ce symbole, de cette forme-là, eh bien, il enverra ses flèches d'argent dans ce cœur, c'est-à-dire dans la symbolique, dans le cœur de tous les dieux, dans le cœur de tous les hommes, afin qu'ils puissent tomber amoureux. Donc on voit que ce cœur que nous représentons est assez facilement à l'heure actuelle, un petit peu comme un réflexe quelquefois, simplement pour faire un petit signe qui va parler de notre envie, de notre désir, de notre affect à tous ces niveaux. Eh bien, il vient de très loin puisqu'il vient déjà de l'Antiquité. Et ce que je conseillerais aux auditeurs, c'est tiens, quand ils vont rencontrer en se promenant une feuille de lierre, c'est de bien regarder cette forme. Et effectivement, c'est elle qui est la représentation assez fidèle du petit cœur que nous dessinons.
Que l'on dessine. Et ce qui est intéressant, Carole Sedillo, c'est qu'on sait que le lierre, c'est ce qu'il y a de plus résistant quand ça s'attache à un arbre. Ça ne
Absolument.
Se détache pas facilement.
Oui,
et
oui.
Je pense que ça vient certainement de là. C'est une des plantes les plus difficiles à éradiquer. Et peut-être que c'est aussi ce symbole-là qu'il faut entendre.
Oui, c'est un symbole de durabilité, d'une dynamique qui s'incruste, on va dire. Hein. Le lierre, effectivement, il s'entoure, il s'attache, il vient nourrir justement aussi cette capacité d'aimer profondément, durablement.
Et alors, ce qui est intéressant aussi à dire, Carole Sedillo, c'est qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, quand il y a un très très gros chagrin d'amour, on parle du phénomène du cœur brisé. Le cœur, donc notre cœur, notre organe, il y a une cicatrice. Donc on voit bien que, d'une manière peut-être tout à fait imaginaire, les anciens ne se trompaient pas de désigner l'amour par le cœur. Frédéric Lenoir, une fois de plus...
Oui, je voulais rebondir aussi là-dessus. Tout
oui,
à fait, c'est le seul. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant Carole Sedillo. Je ne savais pas effectivement que la feuille de lierre, la feuille de vigne était l'origine de la représentation de nos petits cœurs contemporains. Mais je pense effectivement qu'il y a une corrélation. Ils se sont pas trompés intuitivement, je dirais qu'il y a une corrélation entre l'organe du cœur et nos sentiments, puisque on sait très bien que quand on tombe amoureux, on a le cœur qui bat très vite, qui bat très fort, etc. Donc il y a quand même une corrélation, Carole, me semble-t-il, entre l'organe et nos sentiments et nos émotions.
Absolument, absolument. C'est voilà. Donc il y a eu une anticipation, on va dire symbolique, en amont de tout cela, mais voilà, ces grands penseurs, c'est bon, et vous le savez plus que quiconque. Donc, hein, nous ont déjà amené justement à revisiter aussi, à revisiter toute cette dimension symbolique qui nous permet de nous relier à nous-mêmes en tant qu'humains, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et qui s'appelle l'humanité.
Merci beaucoup Carole Sedillo de nous avoir éclairé, mais c'est vrai que la prochaine fois que je vais arracher du lierre à un arbre, j'aurai une petite pensée pour
oui,
vous.
Oui, c'est important, c'est vrai. Merci Brigitte, merci Frédéric.
Merci Carole.
Merci Carole. Je rappelle votre dernier livre, Jung, l'explorateur de l'esprit. C'est aux éditions d'Hervie, bien sûr. Allez Frédéric, on se quitte, un court instant. Et puis on va se retrouver avec Sonia. Et puis le Love Conseil, je vais vous proposer d'habiter votre corps nu, si vous voulez, hein, mais de l'habiter.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors Frédéric Lenoir, je vais parler du corps plus particulièrement et notamment lors de rapports sexuels. Très souvent, on a un petit peu tendance à ne pas être assez dans son corps, c'est-à-dire qu'il y a souvent l'esprit ou la tête, hein, comme vous voulez, qui est là et c'est ce qui empêche justement ce fameux lâcher prise, hein, cette capacité à être vraiment dans ses sensations. Et quand on n'est pas réellement dans ses sensations, c'est-à-dire dans son corps, bah forcément on a une sexualité un petit peu moins épanoui, enfin en tout cas c'est un peu plus compliqué. Alors en général les hommes ils sont en train d'observer leur érection qui du coup peut disparaître, et puis les femmes elles observent si leur plaisir monte et puis du coup elles risquent d'être restées un petit peu en plan. Et donc je crois que c'est important quand on est peut-être justement là tranquillement chez soi, c'est déjà d'essayer d'habiter son corps à chaque moment, et si vous arrivez à ressentir peut-être la chaleur, le froid, l'humidité, enfin tout ce qu'il y a qui touche votre corps. C'est un petit exercice tout bête, mais qui peut permettre d'être un peu plus dans son corps. Parce que en fait, on peut pas être à la fois acteur et spectateur. Et si on veut vraiment être dans la bonne harmonie avec son corps, il faut vraiment se connecter à ses sensations. Et c'est vrai que les pensées éloignent de toute façon des sensations.
Oui, tout à fait. Et effectivement, moi, j'ai découvert ça par la pratique de la méditation. C'est que la pratique de la méditation permet d'observer à quel point notre mental, nos pensées sont tout le temps là. Enfin, c'est un cinéma permanent. On passe son temps à être dans le mental et du coup, on se coupe de notre corps, on se coupe de nos sensations. Et c'est valable pour la relation sexuelle, mais c'est valable pour tout. Quand vous parlez à quelqu'un, que vous êtes en présence d'amis, etc., et si vous êtes en train toujours de penser à autre chose, vous n'êtes absolument pas présent. Et la plupart du temps, on fait des choses tout en pensant à autre chose. Et donc, effectivement, l'exercice de la méditation m'a aidé, moi personnellement, ainsi que d'autres choses. Hein, j'ai pratiqué la méthode Vitose aussi, qui est une méthode qui permet de ressentir
c'est
à
très
nouveau
intéressant, oui.
Voilà, le toucher, l'odorat, de redévelopper ses sens. Et donc, j'ai eu besoin, à un moment donné dans ma vie, de faire ces thérapies, entre guillemets, pour retrouver une qualité de présence à mon corps, parce que j'avais eu tendance, par rapport notamment aux problèmes que j'ai eu affectifs avec mes parents et tout, à partir dans le mental. Et le mental, c'est une manière de se couper de ses sensations parce qu'elles peuvent être, ou de ses émotions parce qu'elles peuvent être douloureuses. Et du coup, se réapproprier la sensation, je pense, c'est une des choses les plus belles qu'on peut faire dans un chemin de vie, parce qu'à ce moment, on redécouvre toute la fluidité de la relation qu'on a aux autres, au monde, par ses sensations et pas uniquement par le prisme du mental, des pensées, des projections, etc., de l'imagination dont on parlait tout à l'heure. Et donc, vous avez raison d'insister à quel point il est important dans toute expérience, y compris l'expérience sexuelle, je la relativise parce que c'est valable pour tout, d'être dans son corps, d'habiter son corps.
Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, j'allais revenir aussi pour aider. Alors, il y a la méditation, conscience de sa respiration, etc. Vous avez évidemment 100% d'accord, mais je pense qu'on peut aussi prendre conscience de ses sensations et habiter son corps par les sens, nos cinq sens. Par exemple, quand vous êtes en train de manger, si vous dégustez chaque bouchée, si vous êtes vraiment dans la sensation de ce que vous êtes en train de faire, du geste de mettre votre fourchette à la bouche, puis ensuite de savourer ce que vous avez dans la bouche, c'est quelque chose qui va vous aider à être plus dans le corps, notamment quand vous parlez, si vous apprenez à parler un petit peu plus lentement, plus tranquillement, ça va aussi vous aider, en marchant plus tranquillement, en prenant
dans
vraiment
la nature, d'écouter les sons de la nature,
le pied qui va d'abord se poser. Puis c'est, enfin bon, tout ça, ça donne une relation plus apaisée avec son corps et donc une meilleure relation à soi, quoi.
Tout à fait, et c'est vrai que de réapprendre à être en pleine présence dans toutes ces activités quotidiennes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai redécouvert, par exemple, à quel point j'ai une sensation, mais qui me donne énormément de plaisir en prenant ma douche. Et longtemps, je prenais ma douche en pensant à autre chose.
Je suis rassurée, au moins, vous prenez votre douche.
Oui, je prenais deux là-dedans. Mais oui, parce que j'ai découvert le plaisir intense de prendre une douche. Mais je l'ai découvert en refaisant de la pleine présence, c'est-à-dire en me disant, je prends ma douche en savourant toute la sensation, qui est extrêmement forte, de l'eau qui coule, de la chaleur, du ruissellement de l'eau sur le corps, etc. Et à ce moment-là, effectivement, je prends beaucoup plus de plaisir à prendre des douches que quand je le faisais rapidement pour des raisons gynéco qu'en pensant à autre chose. Et c'est valable pour tout. Chaque expérience.
Très vite, parce qu'il faut prendre sa douche,
voilà.
sans prendre le plaisir de prendre sa douche. Oui,
et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin, les neurosciences nous montrent que, vous savez, les substances chimiques les plus importantes pour être dans un bien-être, on peut dire les substances du bonheur, même si le bonheur est plus complexe que de la chimie, c'est ce qu'on appelle essentiellement les neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Et ces substances chimiques qui sont essentielles au bien-être et à la bonne humeur et à la joie naturelle de l'être humain, elles sont suscitées par des sensations. Et donc, c'est la qualité sensorielle que nous avons qui va les susciter. On a fait des expériences dans on a testé des personnes, une centaine de personnes avec des électrodes sur le crâne pour voir ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et on voyait que chaque fois que la dopamine ou la sérotonine était transmise dans le corps, c'est parce que les gens étaient présents à ce qu'ils faisaient. Ils étaient attentifs à ce qu'ils faisaient. Quand ils font quelque chose en pensant à autre chose, jamais ils ne sécrètent de la dopamine, de la sérotonine, qui sont encore une fois les substances dont nous avons le plus besoin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on donne aux gens qui sont dépressifs. On leur donne des antidépresseurs, sont faits à base de sérotonine et de dopamine. Et donc, on voit à quel point retrouver son ancrage corporel, ses sensations, être présent ses sensations, c'est essentiel pour être heureux.
Voilà, donc habitez votre corps, hein, c'était notre Love Conseil aujourd'hui. Frédéric Lenoir, nous sommes avec Sonia maintenant. C'est drôle, on n'a que des femmes pour nous parler d'amour. Surprenant ça. Bonjour Sonia.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Oui,
bonjour.
On vient d'apprendre beaucoup de choses là. Déjà pour le lierre qui représente le cœur. Moi, je pensais que c'était à cause des battements, précipités lorsqu'on voit l'être qu'on aime ou qu'on pense à lui, le cœur qui
s'emballe,
la chamade, ou ça nous étouffe, ou bien il est serré lorsqu'on a un gros chagrin, il est le cœur serré. J'ai pensé que c'était... Mais comme vous dites,
peut-être que les anciens avaient déjà repéré tout ça. Hein, et puis après, c'est le symbole du lierre. Hein, mais sans doute qu'ils avaient déjà repéré que notre cœur bat plus vite quand on a une émotion forte.
Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas d'autopsie. C'était... On ne savait pas quoi ressemblait vraiment le cœur.
Oui, mais peu importe. C'est-à-dire que les symboles sont multiples. C'est-à-dire que les anciens ont associé le symbole du cœur pas à cause de sa forme, à cause du fait que, comme vous dites, le cœur s'emballe, etc.
Ils ont vu
qu'il y avait une corrélation entre les sentiments, les émotions et l'organe du cœur. Oui. Et ce qu'a apporté Carole Cedillo comme information qu'on connaissait pas, c'est que la représentation du cœur tel qu'on le représente aujourd'hui avec cette forme-là, elle vient plutôt, en fait, de la feuille de lierre. Les deux sont vrais. Il y a à la fois la feuille qui a donné la représentation et le lien entre notre cœur organique.
Oui, et je dois souligner que dans d'autres cultures, et ce n'est pas le cœur, mais c'est le foie qui est représenté.
Ah bon ?
Lorsqu'une personne
dans quelle culture ?
La culture, j'ai connu des femmes kabyles en Algérie, une dame très âgée, lorsqu'elle avait peur parce que son fils qui avait tendance à traîner dans les bistrots, il n'entrait pas, elle se promenait dans la cour en tenant son ventre, elle disait mon foie me dit qu'il est arrivé quelque chose.
Oui, mais c'est la peur.
Guide le foie.
C'est la peur, c'est pas l'amour.
C'est vrai, peut-être.
Non, c'est la peur. Chaque organe,
il y a
des émotions différentes. C'est les reins, mais c'est aussi le ventre, hein, de manière générale. Quand on dit j'ai la douleur.
Oui, mais tout le monde parlait du foie. On dit il n'a pas de foie, là, il ne pense pas à ça, il ne dit pas le cœur, il dit le foie. Ouais. Et ça m'avait surprise à l'époque. Oui.
Mais c'est une relation avec son enfant, c'est pas tout à fait une relation d'amour. Enfin, c'est une relation d'amour, bien sûr, mais
c'est pas la même chose,
Oui, c'est pas un amour comme le désir dont vous allez peut-être nous parler, Sonia.
Oui, exactement. Alors moi, je voulais témoigner que j'étais mariée et mère de 4 enfants, j'avais à peine 25 ans, hein, j'ai eu mes enfants très jeunes, et c'était dans un autre pays, ce n'était pas ici, et j'étais tombée amoureuse du commandant de la tour de contrôle du petit aéroport où nous étions, lui aussi, et il avait 27 ans, j'en avais 25, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Alors, il insistait pour que je me sauve, que j'emmène avec moi mes enfants, et puis partir avec lui. Mais je ne pouvais pas, c'était trop gros, c'était trop énorme. Ce n'était pas possible, aller où comme ça, dans sa famille, ce n'était pas possible. On ne voyait pas la solution. Et en même temps, on ne faisait que s'écrire. Il n'y avait pas de portable, téléphone, je ne pouvais pas. Mon mari
vous aviez flirté, vous aviez fait l'amour avec lui, ou c'était
resté platonique? Non, ça a été platonique. Il s'est avéré qu'on a réussi à s'embrasser. Je ne vous dis pas le baiser que c'était. C'était baiser de feu. Et nous nous sommes embrassés 2 fois. Et ça a été tout. Alors il a tout fait. J'hésitais. Je ne savais pas quoi faire. C'est affreux. Et voilà, et mon mari se doutait de quelque chose, il le surveillait, mais rien que de prononcer son nom, une fois mon mari a prononcé son nom, il dit tiens, il y a un tel qui arrive, j'ai pâli et je tremblais, il s'est rendu compte de quelque chose. Il a vu qu'il y avait quelque chose. Et alors lui, après, il téléphonait et il voulait venir me voir quand même lorsque mon mari n'était pas là. Je ne voulais pas, j'avais peur qu'il vienne à l'improviste et qu'il nous voit. Il était très suspicieux et il sentait qu'il y avait quelque chose. Et ça a été comme ça pendant un an. Et puis après, nous sommes partis. Et j'ai cherché à le revoir pour essayer de refaire ce qu'il voulait que nous fassions, emmener mes enfants. Mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Ça s'est arrêté là. Et 25 ans après, j'ai rêvé de lui. J'ai écrit une lettre à cet aéroport, là-bas où il était. J'étais revenue en France entre-temps, je lui ai écrit une lettre, parce que j'avais fait un rêve très très fort. Je lui ai écrit une lettre, mais je n'ai jamais reçu de réponse.
Vous n'avez pas eu de réponse, oui.
Non, ça c'est...
Mais ce qui est intéressant dans... Vous voyez, Sonia, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit que, sans doute à cause de votre culture, vous aviez tellement peur de votre mari que, de toute façon, vous étiez piégée. Oui, quoi. Vous pouviez
j'étais piégée, il le savait. Il savait, j'étais coincée, comme on dit vulgairement, j'étais coincée. Je ne voulais pas, hors de question, de laisser mes enfants et de me sauver avec cet amoureux.
Parce que il me semble que c'est plus la peur que la morale, là, en l'occurrence, qui a fait que vous
Non, il y a la morale aussi. Je ne pouvais pas laisser mes enfants. C'est pas possible. Pas possible de laisser mes enfants me sauver. Non, ça, jamais. Jamais.
Non, parce que vous avez surtout parlé de la peur de votre mari le découvre.
Oui, bien sûr. Mais indépendamment de ça, lui, il voulait m'emmener avec mes enfants. Je me disais, ce n'est pas possible. Dans sa famille, ils vont voir que j'emmène 4 enfants. Il y en avait 4 en bas âge, 4 enfants avec moi. Ce n'est pas possible, ça ira mal.
Et alors aujourd'hui vous y pensez encore, je suppose, puisque vous avez eu envie de raconter cette histoire.
Hein? Oui, parce que c'est un goût d'inachevé. Parfois j'y pense. Je vous dis, j'ai même fait un rêve très très fort. Voilà.
Oui.
C'est dans la douleur. Je suis heureuse de le voir, et en même temps c'est dans la douleur. Dans mon rêve, ça fait mal. Dans mon rêve, c'est dans la douleur. Je le vois, mais pas distinctement. Je vois une silhouette, je sais que c'est lui, et c'est dans la douleur. Et puis je me réveille, puis je me dis, c'est trop bête, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est à côté, loin, je ne sais pas. Et maintenant, avec Internet, peut-être que ce serait bien d'entrer en contact.
On n'en sait rien, mais vous vous souvenez de son prénom et de son nom?
Oui, les deux, je me rappelle.
Parce qu'il n'est pas impossible, en effet, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, peut-être, de retrouver sa trace.
Oui, mais en même temps, je me dis, il doit être marié, père de famille, je ne veux pas briser un ménage. Tout ça pour clore quelque chose qui est à peine né. Voilà, c'est ça aussi.
Je me dis, à quoi bon. Ça fait combien
d'années? Il y a 40 et quelques années. Vous voyez un
oui,
peu.
C'est vrai que ça fait
trop long. Ça fait trop loin.
Mais peut-être que sans essayer de le revoir, juste savoir qu'est-ce qu'il est devenu pour mettre un point. Parce que Frédéric Lenoir, on l'a vu avec Cécile, peut-être mettre un point final à cette relation. Enfin,
lorsqu'elle parlait tout à l'heure, je l'entendais, j'ai pensé à ça aussi. C'est ce qui m'est venu à l'esprit.
Moi je pense que c'est important de clore les histoires. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. C'est exactement ce qui vous arrive. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à reprendre contact avec quelqu'un pour vérifier ce que vous ressentez pour lui. Et peut-être qu'en le revoyant, vous n'allez plus rien ressentir du tout. Les choses seront complètement closes et vous en serez libéré. Peut-être que vous allez, au contraire, ressentir encore quelque chose de vrai. Peut-être que c'est pas imaginaire. Peut-être. Et vous ne savez pas s'il est disponible ou pas. Vous connaissez rien de sa vie. Et donc, moi, je trouve pas négatif d'essayer de reprendre contact avec quelqu'un pour clore une histoire. Et puis, vous verrez bien ce que la réalité vous mettra sous le nez. Et peut-être que quelque chose sera possible ou non.
Oui, c'est vrai. La preuve, c'est que il y a à peu près 25 ans de cela, j'avais fait ce rêve-là. Et puis, j'avais écrit une lettre, malheureusement, sans réponse. Voilà.
Oui, mais il faut. Enfin, et du coup, vous avez abandonné, mais là, franchement.
Oui, excusez-moi, je ne savais pas s'il a reçu la lettre, je ne sais pas. À l'aéroport, c'est assez grand.
Mais là, une lettre, on ne sait pas, parce que peut-être qu'il ne l'a en effet pas reçue, peut-être qu'il n'était plus à cet endroit et que la lettre, elle s'est perdue.
Ou qu'il n'était pas disponible à cette époque et qu'il l'est aujourd'hui, on ne sait pas.
Voilà, c'est ce que je
tandis qu'avec les nouvelles technologies, vous pourriez peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que c'est pas, mais vous pourriez peut-être retrouver sa trace et à ce moment-là avoir une réponse qui va vous calmer, parce que si vous rêvez encore de temps en temps de lui, on voit bien à quel point votre psychisme est encore habité par cet homme.
Oui, c'était imprégné vraiment. C'était une passion, vraiment une passion. Oui.
Qui n'a pas pu du tout être vécu, et c'est là évidemment où l'imaginaire garde
voilà,
toute sa place.
Voilà, la frustration, et du coup l'imaginaire travaille. Voilà, on se sent frustré.
Et ça a certainement nuit à votre relation avec votre mari et aux histoires qu'il y a eu après.
C'est très mal
parce qu'il
passé,
reste quelque
divorce.
Comme s'il y avait encore une sorte de kyste à l'intérieur du cœur qui vous empêche de vous ouvrir vraiment à ce que vous êtes en train de vivre.
Exactement, il y a une blessure,
qui n'est pas fermée.
Exactement.
Oui. Mais merci Sonia en tout cas de vous être confiée à nous.
Merci à vous.
Merci à Frédéric aussi.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée. Au revoir, à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
On va se retrouver dans un instant avec Elisabeth qui nous a appelé également sur Sud Radio. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Frédéric Lenoir est avec nous, philosophe, auteur de nombreux livres, le dernier, Le Miracle Spinoza, qui est en poche, hein, donc ne vous en privez surtout pas, ça parle évidemment beaucoup d'amour et de désir. Alors Frédéric Lenoir, on va préciser que les hommes aussi sont capables d'aimer, hein, même si nous n'avons eu aucun homme qui a appelé aujourd'hui pour nous parler d'amour.
Ils sont peut-être plus pudiques, effectivement, parce que... Mais en tout cas, bien sûr que on ne peut pas vivre sans amour, de toute façon. L'être humain ne peut pas vivre sans amour. Alors, quelles que soient les dimensions de l'amour, on a parlé de diverses dimensions, l'amitié, l'amour divin, l'amour charnel. Et en tout cas, on a besoin d'être en communion, on a besoin d'être en relation. L'être humain ne peut pas vivre seul. Il a besoin d'être en relation avec d'autres êtres vivants avec qui il est en communion. Et c'est ça qui fait tourner le monde. Et sans amour, la vie serait tout simplement impossible.
Je suis bien d'accord. Alors, Elisabeth nous a appelé sur Sud Radio. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour. Hein, bonjour, Brigitte, et bonjour, Frédéric.
Bonjour.
Je suis très contente que vous me receviez sur l'antenne. Donc, je vous écoute très souvent en podcast. Donc, moi, je parlais un peu donc, de ma vie amoureuse. Donc, j'ai été mariée pendant 20 ans avec un homme avec qui j'ai eu deux enfants. J'ai divorcé il y a 7 ans. Donc, ça fait 3 ans que je suis donc avec un partenaire et je sens que donc la relation, je ne sais pas si elle arrive à sa fin. En tout cas, je suis beaucoup dans les reproches. Et je reproche tout un tas de choses. Je suis plus du tout dans l'admiration ou dans la bienveillance avec cet homme.
Et quand vous lui faites des reproches, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il réagit ?
Bah, il me dit que oui, que je suis en colère. Après, je pense que je suis en colère, je sais pas, peut-être aussi parce que j'ai eu une enfance et une éducation assez stricte dans le modèle féminin, c'est-à-dire qu'une femme était plutôt mère.
Oui, mais vous êtes adulte aujourd'hui, vous n'êtes plus une enfant.
Oui, tout à fait.
Donc, mais c'est vrai que de voir qu'est-ce qui vous met en colère. Parce que c'est vrai que très, très souvent, la critique peut venir d'une colère. Alors, la colère, c'est quoi ? C'est un sentiment de ne pas... Enfin, c'est une émotion, évidemment. C'est pas un sentiment, mais elle est due au sentiment de ne pas être... alors, soit pas respecté, soit de ne pas avoir... de ne pas être... En fait, si, on pourrait même continuer à parler de respect, de ne pas être respecté dans ses besoins... essentiel. Est-ce que c'est un peu ça ou pas ?
Bah après, il est assez possessif et il est assez jaloux, quoi.
Il est assez, pardon, possessif, oui.
Il est possessif et jaloux.
Oui, d'accord. Mais c'est ça qui vous met en colère, vous croyez ?
Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus par rapport à nos chemins de vie différents. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une vie assez rangée. Et lui donc il s'est marié plusieurs fois et il a eu beaucoup de partenaires.
Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la colère peut être liée à ce dont on a pas mal parlé dans l'émission, à une désillusion ? C'est-à-dire, est-ce que ça arrive très souvent que l'autre ne correspond pas à ce qu'on pensait qu'il était ? C'est-à-dire qu'on idéalise un peu l'autre au début, puis au bout de quelques années, on se dit, finalement, il n'est pas comme je pensais qu'il était. Est-ce que ça pourrait être ça ?
Je sais pas trop. C'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois de le quitter en me disant que la relation n'était pas ce que j'attendais. Après,
Non, mais Frédéric Lenoir a certainement raison. Vous êtes déçu. Maintenant, il faudrait comprendre si c'est une déception qui vient de vous-même et donc quel que soit l'homme avec lequel vous allez vivre, vous allez de toute façon être déçu. On voit bien, vous êtes avec lui depuis 3 ans. 3 ans, on dit toujours que c'est le temps de la passion. Ou est-ce que réellement, il a des choses qui ne vous conviennent pas et à ce moment-là, c'est compliqué de continuer la relation. Et alors, vous avez insisté sur le fait que vous n'avez pas eu beaucoup d'hommes dans votre vie, alors que lui a eu beaucoup de femmes. Et ça signifie quoi ? Pourquoi vous nous avez dit ça ? Est-ce que d'une certaine manière, vous pensiez, parce qu'il a connu beaucoup de femmes, qu'il allait vous satisfaire ? Comment vous avez interprété quand vous l'avez rencontré et que vous avez su qu'il avait eu beaucoup de relations? Qu'est-ce que vous avez imaginé?
Bah, je me disais que en tant que femme, puisque avec mon ex-mari, j'étais plus mère. C'est vrai que j'ai vraiment découvert ma sexualité. Je me suis vue vraiment en tant que femme. Je me suis découverte.
Grâce à lui, quand vous l'avez rencontré?
Oui, tout à fait.
D'accord. Et aujourd'hui, au fond, il vous étouffe un peu, puisqu'il est jaloux et possessif.
Bah, je sais pas. Après, il a certains principes où il pourrait me dire par exemple, si j'ai envie de le quitter, de me dire mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu veux enchaîner relation sur relation, enfin il est beaucoup là-dessus.
Il est presque humiliant donc. Non,
oui.
On pourrait dire
oui.
Ça il,
oui.
Il vous humilie un peu, comme si vous étiez vous finalement pauvre femme qui a eu la chance de le rencontrer et que si vous le quittez, de toute façon, vous rencontrerez jamais un homme aussi bien que lui. C'est un peu ça?
Oui, parfois il peut me dire ça, oui.
Oui, oui. Donc en fait, il essaye de vous rabaisser pour se sentir supérieur. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là.
Bah, à côté de ça, il va avoir tout un tas d'attention.
Donc ça traduit quoi? Ça traduit qu'il manque de confiance en lui, Elisabeth. Mais vous, ça vous abîme.
Bah moi, ça me... C'est-à-dire, je sais plus. Il me dit qu'à chaque fois que je suis instable, que je suis... Il finit par aussi me faire des reproches dans moi en tant que femme. Que je suis, à la rigueur, si par exemple je veux avoir des attitudes qui sont très féminines parce que je suis assez coquette, et ben il va me reprocher ça en me disant que je veux attirer le regard de d'autres hommes, ainsi, des choses comme ça.
Oui, oui, c'est une relation qui je crains, hein. Elisabeth, est un petit peu vouée maintenant à l'échec parce que vous êtes, grâce à lui, épanouie, vous avez envie d'en profiter, vous avez envie d'être coquette, comme vous venez de le dire, et puis là, maintenant, où il vous a permis de vous éclore, il veut vous étouffer, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous voyez, ce qui a bien fonctionné, ce qui a fait que vous étiez amoureuse de lui et qu'il était amoureux de vous, bah c'est parce qu'il avait, la certitude qu'il vous possédait bien. Là, vous êtes un petit peu en train de sortir des rails dans lesquels il vous avait mise. Et vous voyez, ça se joue sur cette, à mon avis, sous cet angle-là. Alors, est-ce que vous pouvez, vous, le rassurer tout en continuant à vous épanouir? Ça demande une stratégie qui est peut-être pas si facile que ça, et je pense qu'en effet la relation elle a été intéressante, mais elle est un petit peu bloquée maintenant. En tout cas, Elisabeth, prenez le temps de réfléchir, parce que peut-être qu'il y a encore quelque chose à gagner dans cette relation, mais ne vous laissez pas étouffer, ne vous laissez pas humilier. Et puis quand vous êtes un petit peu en colère, moi je vous conseille d'écouter votre petite voix intérieure, et dites-vous, là il m'énerve, mais en fait c'est lui qui est fragile, et c'est pour ça qu'il est désagréable avec moi. Et peut-être qu'à ce moment-là vous arriverez à le rassurer, et ça fera évoluer la relation dans le bon sens, mais c'est pas gagné. Je crains en effet que vous soyez un petit peu au bout de cette relation. Merci en tout cas, Elisabeth. Frédéric Lenoir, merci, c'était un grand plaisir de vous partager ces 2 heures avec vous, et puis je crois qu'on a peut-être éveillé beaucoup de choses en parlant d'amour ensemble. Et je rappelle votre livre Miracle Spinoza aux éditions Albin Michel, et qui est en poche.
Merci Brigitte.
Évidemment. Merci à vous. Et tout de suite, vous retrouvez Trina pour C'est votre avenir. Je vous embrasse, à demain.